100% raisin, des mots en bouteille. Épisode 10, désordre de cave. À l'aune d'une solitude renforcée, durant ces 55 jours confinés, je me réjouissais du silence et d'avoir repris le cours de mes habitudes. Réconfortante habitude qui me pliait chaque jour à son immuable rythme et égrenait les heures avec un ordre rassurant et profondément salutaire pour moi. Au début du confinement, je n'arrivais pas à lire, trop de vagabondage, mon esprit partait ailleurs, indiscipliné, déjà pressé de voir le bout de cette situation avant même son amorce. Lorsque j'ai commencé à écrire ces textes, à les dire à voix haute, j'ai repris la lecture, modestement d'abord et ce n'est pas encore très fluide. Par bribes, relisant certains passages ou certains textes. Un mot en appelant un autre, je piochais dans les quelques ouvrages de ma bibliothèque pour illustrer ma journée. Et voilà qu'un jour triste, j'ai tiré d'une étagère un petit rectangle blanc que je n'avais sans doute jamais ouvert car les pages restaient encore bien collées et la reliure parfaitement intacte. C'était la vie heureuse de Sénèque. Quel joli titre, sonnant comme un programme politique ou un manuel de développement personnel. Je savais bien pourtant qu'il ne s'agissait pas de cela, et que ces mots, nés il y a 2000 ans, parviendraient jusqu'à moi sans trop d'efforts pour me parler et me dire le monde d'aujourd'hui sans aucun espace entre nous. J'ai ouvert le livre dans ses premières pages. Son odeur m'a saisi. Une bonne odeur de papier jauni, délabré, cadenassé dans une bibliothèque où la promiscuité est infernale, parce que tous mes ouvrages, par un souci d'ordre autant que d'allure esthétique, restent confinés eux aussi, bien serrés les uns aux autres à ne plus parfois pouvoir les extraire. Triés par thème et par ordre de grandeur, les récits s'exposent à la ligne, cheptels de pleins et de déliés, de livres d'art trop grands, de manuels trop carrés, des formats insensés, d'autres inclassables, ma hantise. Dans une bibliothèque comme dans une cave, il est question d'ordre et de logique. Pas toujours d'ailleurs un agencement maniaque comme ces rayons fictifs des vitrines de magasins de meubles, mais un certain ordre propre à chacun. La façon de ranger ses livres comme celle de ranger ses vins doit certainement signifier quelque chose. Si parfois un chaos est nécessaire, pour d'autres, dont je fais partie, il faut un alignement au cordeau, une place attitrée pour chaque ouvrage ou chaque bouteille. Michel Bétane possède deux caves, l'une à Bougival, l'autre dans sa maison du Beaujolais, une jolie maison de pierre aux volets verts qui se confondent, les jours d'été, avec le feuillage des vignes qui l'enserrent. Dans cette cave sous la maison s'y trouve un capharnaüm digne du labyrinthe de Dédale, où le néophyte se perdrait à jamais. Un bordel complet, dirait-on moins poliment, mais plus proche de la vérité. Où l'humidité a tellement gagné qu'elle a effacé toutes les étiquettes, du moins les plus anciennes. Et lorsque Michel descend en cave et que nous restons suspendus à son retour, il tend le bras vers telle ou telle bouteille empilée dans un foutoir total et il en ressort un flacon nu, au papier arraché, voire parfois dont il ne subsiste que des lambeaux dont lui seul peut sans aucune hésitation affirmer qu'il s'agit bien d'un cheval blanc 79 ou d'un morceau de la Loubise. Aucune autre preuve tangible ne venant contrecarrer son propos, nous nous soumettons bien volontiers à son avis de Champollion. J'ai donc ouvert mon livre de Sénèque. Je me suis dit que c'était un ouvrage de circonstance et que les grands philosophes ont déjà tout dit de la nature humaine, du temps et de la vie qui passe, et que je m'épargnerais bien des mauvais grimoires de notre époque en lisant ces quelques 70 pages. Ainsi donc, je fus d'abord stoppé par l'odeur du papier qui me rappela celle de la maison de ma grand-mère, que j'ai très peu connue mais dont il m'est resté une nostalgie, ce temps de l'insouciance où la durée se résume au jour, où l'angoisse n'est à la mesure que de minutes et où les joies emplissent les heures. Et en ouvrant ce livre, en écartant ses premières pages, m'est réapparue cette époque heureuse, le champ des tourterelles, le parc et son grand platane, éternel, et nos lieux de cachette, dans les communs, ces bâtiments annexes aux planchers vermoulus qui relarguaient cette même odeur de vieux monde et de passé intact. C'est curieux parce que c'est d'abord en cherchant mes mythologies de Barthes que je suis tombé sur Sénèque, un sceau de 20 siècles en l'espace d'une étagère de 40 cm de hauteur. Abscisse et ordonnée comme toujours. Et c'est en écartant la première rangée de mes Zola, Georges Sand, Maupassant et Chateaubriand que ce petit livre a attiré mon attention. Coincé outre-tombe, il patientait, attendant poliment son tour, que je le sortisse de sa cachette et qu'il me révéla, après 20 siècles de confinement, sa vérité. À la différence des vins, les livres peuvent attendre à l'infini. Certains vins auraient pourtant cette faculté, mais ils sont rares et il arrive, au bout du compte, qu'eux aussi perdent finalement patience et finissent par se faner, déçus d'avoir été bu trop tard, à défaut de l'être trop tôt. Les livres ne se périment pas, il n'y a pas d'ouvrage que l'on puisse avoir lu trop tard, cela n'existe pas. Les mots s'inscrivent pour l'éternité, certes ils peuvent passer de mode, être détractés, contredits, délaissés, mais ils demeurent, au creux de leurs pages, soldats fidèles de la vérité qu'ils exposent. Dans chaque grand vin se loge aussi une part de vérité, un morceau d'histoire, de temps passé et d'oubli. Il faut les cueillir quand il est temps et saisir cette révélation qu'ils nous donnent à boire. Sénèque disait en substance « Pour être heureux, il faut se fixer un objectif de vie et trouver la meilleure voie pour le réaliser, mais surtout et avant toute chose, suivre la vertu et renoncer à la volupté, ajustant le souverain bien de l'existence à la tempérance, la constance, la bonté, l'honnêteté. Une vie tendue vers le beau, un voyage exempt de passions inutiles et d'inconstance, et tendre, quelle que soit la voie empruntée et notre position ou notre fonction dans la cité, vers la sagesse. Joli programme. Quel but avais-je ? Noircir des pages, vider des bouteilles et exposer mon avis. Mais je vais suivre son conseil, je m'astreins donc chaque jour à un peu d'écriture et de temps en temps à quelques dégustations où je livre mon opinion dans la quiétude et la franchise les plus totales. Et puis le déconfinement est arrivé. La planète tousse à nouveau et s'agite, pressée de tourner encore plus vite. Parfois j'aimerais que la Terre s'arrête pour en descendre. Faire un pas de côté, laisser passer les heures et vous regarder tous, vous agiter, râler parce que vous n'avez pas le temps de rien, comme s'il s'agissait d'en avoir du temps. En fait, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas une possession, c'est mieux que cela, c'est un dû, la même somme à chacun, 24 heures d'une journée, pour tout le monde, quelle que soit sa condition. Je profite donc de ce temps alloué sans contrepartie, je l'égrène, je gonde parfois les heures, il est lent, il coule comme du sable et je le sens passer sur moi. Et puis parfois il s'accélère et il me fait peur. Alors je repars, je dois me décloisonner, sortir de mon étagère et retrouver le chemin du vignoble. Ce sera Bordeaux, où la campagne des primeurs 2019 avait été ajournée et qui de nouveau nous appelle, en cette fin du mois de mai. En marge de longues séries de dégustations, où nous nous plions consciencieusement à noter et commenter chaque cru, nous prenons le temps de visiter quelques châteaux afin de recueillir les avis sur le millésime et de les sonder au sujet des perspectives de prix qui s'annoncent. Circonscrits à l'agglomération bordelaise, nous poussons jusqu'au Médoc et redescendons dans les Graves. Et puis nous vient l'idée de prendre le large et de nous enfoncer un peu plus dans la campagne. Nous prenons la tangente et poussons les limites du Libournais jusqu'aux Côtes de Franc. C'est un paysage de bordure, la finitude d'un monde qui s'achève dans les plis de collines ondoyantes, au milieu des forêts et des prairies, où l'on retrouve le plaisir de marcher dans les herbes hautes parsemées de pâquerettes et de luzernes, la joie de sentir à nouveau l'odeur de la vigne en fleurs, la chaleur du soleil et le ciel qui verse sa lumière sur nos têtes. Nous sommes au château Marceau, un petit vignoble de 12 hectares qui cogne contre la lande et cultive le goût du lieu. Anne-Laurence Chadronnier le veille depuis 3 ans en culture biologique. Elle a mis tout son cœur et toute son obstination à capturer ce paysage en bouteille et livré, à travers son vin, toutes les saveurs de l'endroit. Au loin, suspendu sur la ligne de crête qui marque la frontière avec la Dordogne, on distingue le château de Montaigne. L'écrivain y goûtait le paysage, son silence, l'éclat de la lumière, mais aussi ses vins. Inversons un instant le point de vue et plaçons-nous sur l'horizon. Depuis la tour de son château, Montaigne pouvait apercevoir la vallée de la Lidoire, un petit affluent de la Dordogne qui délimite aujourd'hui, administrativement, les vins de l'un et de l'autre bord. En fait, toute la ligne de côte qui s'étend jusqu'à Saint-Michel-de-Montaigne se trouve dans la continuité des coteaux de Saint-Émilion et Castillon, bordant la basse vallée de la Dordogne. Et lorsque l'on étire encore un peu la carte, on y découvre Marceau, en dernier rempart contre la fin des vignes. De part et d'autre du chai, ce sont, à perte de vue, des étendues de vignobles, de bosquets et de haies qui fleurissent et rappellent à elles les papillons, les abeilles et les mésanges. Dans ce lieu oublié du temps, on retrouve la campagne, champêtre et authentique, avec sa clarté et son reflet, car ici, la lumière n'a pas la même saveur qu'ailleurs. Elle offre son silence, impose ses argents et un bleu plus profond, plus intense, plus vibrant. Et lorsque l'on goûte ces merlots tout juste naissants, ces jus fermes et parfumés qui se déploient au printemps, on perçoit l'exactitude du lieu, l'épaisseur de la terre et le chant des oiseaux. L'impression est fugace, elle ne dure qu'un instant, mais à ce moment précis, on perd totalement la notion du temps pour se couler dans celle de l'espace et devenir, nous aussi, un petit morceau de ce paysage. « Je suis du monde, » disait Montaigne, « abolissant les frontières et refusant de se soumettre à la contingence du lieu, ses attributs et ses limites. Il y a aussi dans le vin quelque chose qui dépasse le lieu d'origine et l'élargit. Ainsi, on peut goûter à ce paysage hautement rural tout en s'évadant, être à la fois ici et ailleurs. Et c'est ainsi que le monde me semble à sa place, correctement rangé sur la bonne étagère. Dans la trace de ce jus presque noir qui colore les verres, reste le sentiment d'appartenir au paysage et de s'en effacer. Sur la ligne de crête qui barre l'horizon, naviguent quelques nuages, avec à leurs pieds les prairies, les vignes et les champs. C'est un coin de verdure comme il en existe ailleurs, sans rien d'extraordinaire et pourtant rien d'anodin. Mais ce jour-là, il m'a peut-être semblé un peu plus vrai que les autres, plus présent et plus sensible, parce qu'il semblait contenir un ordre fixe et rassurant, et refléter humblement la juste place de chaque chose. »